Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français aujourd'hui, diffusée depuis Jakarta. Cette fois-ci, le 8 mai 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, comme le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et les chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a inauguré l'exposition de photos de la paix. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a rencontré le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU pour discuter de la situation à Gaza. La ministre Retno Marsudi a déclaré que la paix doit être construite et maintenue. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu la visite d'honneur de la vice-présidente de l'Argentine. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a souligné que l'exposition de photos intitulée « Semer les grains de paix » était le bon moyen de rappeler à la communauté mondiale la contribution de l'Indonésie à la paix. L'exposition de photos qui s'est déroulée jusqu'au 17 mai au siège de l'ONU a montré la contribution de l'Indonésie, entre autres concernant le rôle de la femme en tant que l'agent de changement et de paix. La deuxième semaine de mai a marqué le début de ses activités en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme on le sait, en mai 2019 est la première position de l'Indonésie dans la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Indonésie a préparé divers programmes de travail et les grands événements, entre autres l'exposition de photographies sur le thème « Semer les graines de la paix ». L'exposition a été inaugurée par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, au siège de l'ONU à New York, les États-Unis, lundi. Les différentes photos exposées sont une petite partie de la contribution indonésienne participant à divers problèmes mondiaux. Elle expliquait que pour l'Indonésie, la paix ne concernait pas seulement la guerre, mais aussi la liberté de démocratie, les droits de l'homme et le développement. L'exposition de photos est également considérée comme le média adéquat pour rappeler à la communauté internationale ce que l'Indonésie avait fait pour maintenir la paix. Le monde sait que nous avons beaucoup contribué. Mais si nos contributions sont mises en image ou en film, les gens s'en souviendront, comme par exemple, comme l'ambassadeur palestinien lorsqu'il a vu un hôpital indonésien à Gaza, il s'est immédiatement rappelé « Ah oui, c'est un hôpital construit par l'Indonésie ». En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Indonésie devrait être fière parce qu'elle occupe actuellement la 8e position sur 124 pays contribuant aux forces de paix dans diverses zones de conflit. L'exposition de photos, qui est une série de la présidence indonésienne au Conseil de sécurité, a documenté la contribution de l'Indonésie à la paix dans le monde, y compris la démocratie et la consolidation de la paix, le rôle des femmes en tant qu'agents de changement, la paix et la coopération pour le développement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a rencontré le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, l'ambassadeur Mohamed Edris, pour discuter de la situation de sécurité dans la bande de Gaza concernant les actes d'attaque mutuelle entre l'armée israélienne et des combattants palestiniens. La réunion entre la ministre Retno Marsudi et l'ambassadeur Mohamed Idriss s'est déroulée au siège de l'ONU à New York, les États-Unis, lundi. Ils ont échangé des idées sur les efforts qui peuvent être faits pour empêcher des tensions croissantes entre l'Israël et la Palestine dans la bande de Gaza. La ministre Retno Marsudi a déclaré que le représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Dian Triansyahjani, avait également communiqué avec l'ambassadeur de Palestine auprès de l'ONU pour connaître la situation à Gaza. De plus, Retno a également établi une communication avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, afin de discuter de la situation à Gaza. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la paix était une chose qui doit être construite entretenue et maintenue. C'est ce qu'a déclaré la ministre à l'ouverture d'une exposition de photos sur le thème « Investir dans la paix » qui s'est tenue dans le cadre de la présidence indonésienne au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, les États-Unis, lundi. L'exposition de photos a pour but de présenter les efforts réels de l'Indonésie dans la conduite d'activités de consolidation de paix dans divers pays dans le cadre de la diplomatie indonésienne au cours des 5 dernières années. Lors de l'inauguration de l'exposition de photos, Mme Retno Marsudi a déclaré que pour l'Indonésie, la paix n'était pas seulement marquée par l'absence de guerre, mais aussi par les conditions dans lesquelles la démocratie, les droits de l'homme et le développement étaient également respectés. Cette exposition présente une documentation sur trois formes de contribution de l'Indonésie à la paix mondiale, à savoir la démocratie et la consolidation de la paix, le rôle des femmes comme agents du changement et de la paix, ainsi que la coopération au développement. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu mardi une visite de courtoisie de la vice-présidente argentine Gabriela Michetti au palais du vice-président à Jakarta. Ils ont tenu une réunion à huis clos pour discuter des efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Après la réunion, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la réunion bilatérale avec le vice-président de l'Argentine et le ministre du Commerce de l'Argentine, ils ont discuté du renforcement des relations commerciales. Jusqu'à présent, les relations commerciales de l'Indonésie avaient atteint 2 milliards de dollars américains et l'Indonésie est toujours en déficit parce que l'Indonésie achetait encore des produits agricoles de l'Argentine. Selon Yusuf Kalla, l'Indonésie augmentera la valeur de ses exportations vers l'Argentine, dont les discussions seront menées par chaque ministre du Commerce. Pour l'Indonésie, l'Argentine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la région de l'Amérique du Sud. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia.
La coopération bilatérale indo-tunisienne a établi depuis des années 50 ainsi que les relations diplomatiques aux années 60. Actuellement, les deux pays sont en train de resserrer les relations sous forme de l'accord commercial. Pour cela, nous avons fait l'interview spéciale avec l'ambassadeur tunisien en Indonésie, Riyad Ridi, qui avait visité la Voix de l'Indonésie cette semaine. Voici le reportage complet.
Monsieur l'ambassadeur, l'Indonésie et la Tunisie ont de très longues relations bilatérales, notamment depuis le début des années 50, ouais, lorsque la Tunisie a déclaré son indépendance. Alors, que pensez-vous sur ça?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici à la Radio République Indonésia pour m'adresser à mes frères indonésiens qui m'entendent en langue française. Nos relations sont historiques, excellentes, et elles remontent, comme vous avez dit, au début des années 50, lorsque l'Indonésie a été à côté de la Tunisie pour l'appuyer dans sa lutte contre l'indépendance. L'Indonésie a été le pays qui a supporté la cause tunisienne auprès des Nations Unies. Et à la Tunisie, les représentants du parti Destour, qui est le premier parti, le parti du leader Habib Bourguiba, ont participé à la conférence de Bandung, Asie-Afrique, et ont rencontré le président Sukarno et sollicité l'appui des autorités indonésiennes qui ont supporté la Tunisie pour avoir son indépendance. Donc les relations sont excellentes, sont historiques et j'espère que je pourrai contribuer au développement de ces relations lors de mon mandat ici à Jakarta.
Ok, merci monsieur. Maintenant, c'est les questions, c'est sur les relations économiques, peut-être bilatérales. Le commerce bilatéral entre l'Indonésie et la Tunisie a diminué d'après les données de notre ministère. Que la valeur totale du commerce indo-tunisien en 2017 était de 87 millions
ouais.
américains.
Ouais.
Elle s'élevait à 81 millions de dollars américains, oui. soit une baisse de peut-être 3%
oui.
par rapport à l'année précédente. Est-ce oui. que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe?
Oui. D'abord, les chiffres que vous avez donnés, c'est 87 millions ou 81 millions, c'est sûr qu'il y a une baisse de presque 6 millions de dollars. Mais lorsque je vois le chiffre qui est en deçà de 100 millions, ça ne peut que nous pousser à travailler encore plus pour développer ce volume d'échange. Il est assez sûr, il y a une baisse, mais on doit travailler pour développer les échanges commerciaux pour atteindre les 100 millions, 200, voire plus. Donc c'est pour cela que les deux parties sont en train de négocier un accord PTA, un accord commercial qui contribuera au développement du commerce et des relations économiques entre les deux pays. Donc il faut voir le futur, regarder à l'avant, parce que si on dit que nous avons 80 millions ou 87 millions d'échanges, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les développer davantage. Donc il ne faut pas être pessimiste. C'est sûr que c'est un chiffre qui est en deçà des espérances des deux parties. Donc on doit regarder à l'avenir, essayer de mettre le cadre juridique nécessaire pour le développement des échanges commerciaux. Et c'est ce que les deux pays sont en train de faire à travers la négociation de l'accord PTA, l'accord commercial entre les deux pays.
Donc, c'est pourquoi il y a le rapport, il y a la réunion entre l'Indonésie et l'Indonésie l'année dernière. Il y a
la commission mixte.
Oui, ouais. C'est l'accord pour le traite, n'est-ce pas?
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu sur ça?
Donc, les deux parties actuellement, comme j'ai dit, sont en train de négocier un accord commercial qui va permettre de réduire les tarifs douaniers sur certains produits et ça permettra de développer le commerce entre les deux pays, de réaliser des échanges en volume plus avancé et plus développé que les 80 et 87 millions de dollars actuels. Donc, il y a eu beaucoup de rounds. Je pense que la dernière round de ces négociations s'est tenue à Tunis en mars dernier. Donc, il y a eu une délégation du ministère du Commerce et des agences indonésiennes compétentes qui s'est déplacée en Tunisie et a rencontré les responsables du ministère du Commerce tunisien et qui se sont réunis pour négocier et finaliser l'accord commercial entre les deux pays que j'espère on peut le signer avant la fin de l'année.
Parce que la Tunisie a déjà comment ça, j'ai signé le commerce libre avec l'Union européenne. Est-ce que ça c'est dans cette coopération, est-ce que l'Indonésie peut faciliter, la Tunisie va faciliter les choses d'Indonésiens pour aller à l'Union européenne?
Oui, nous avons un accord d'association avec l'Union européenne depuis 1995. Donc, les produits tunisiens ont accès au marché industriel tunisien, ont accès au marché européen de manière facilement. Donc, pour les sociétés indonésiennes qui espèrent exporter sur le marché européen, ils peuvent investir en Tunisie. La Tunisie peut être une plateforme pour les sociétés et les entreprises indonésiennes désireuses d'exporter sur le marché européen. Nous avons aussi des accords de libre-échange avec certains pays arabes, avec certains pays africains. Nous sommes partis de la COMESA. Nous avons signé l'accord de la zone de libre-échange africaine. Donc, les entreprises indonésiennes qui souhaitent exporter sur ces marchés peuvent s'établir en Tunisie et après travailler sur ces marchés lointains.
Est-ce qu'il y a le défi, monsieur, le défi et l'obstacle pour réaliser ça?
Bien sûr, il y a des défis. Le défi majeur, c'est il faut adapter sa législation. Il faut améliorer le cadre juridique. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire en Tunisie. Nous sommes en train de faire des réformes économiques pour améliorer les milieux d'investissement en Tunisie. Nous avons promulgué le nouveau code d'investissement. Nous avons récemment fait adopter une loi pour faciliter les investissements. Donc, le défi, c'est comment améliorer le cadre juridique pour attirer le plus d'entreprises étrangères. Et je pense que c'est tous les pays et l'Indonésie aussi travaillent sur l'amélioration du cadre juridique pour que les sociétés étrangères puissent s'établir ici en Indonésie.
Ok, monsieur. Donc, quel est le produit de Tunisiens qui exporter à l'Indonésie la Tunisie importer de l'Indonésie?
Oui, bon, il y a beaucoup de produits échangés. L'Indonésie importait beaucoup de phosphate de la Tunisie. Aussi, on exporte vers l'Indonésie des produits manufacturiers, des dattes. Les dattes tunisiennes, d'Eglet-Nour tunisienne est très connue ici en Indonésie. Vendredi dernier, nous avons inaugurer la foire des produits agricoles tunisiens. Et pour promouvoir d'autres produits comme l'huile d'olive, comme la hot sauce, des produits tunisiens que les consommateurs indonésiens ne connaissent pas. Moi, lorsque je suis venu ici, j'étais étonné de voir uniquement les dattes tunisiennes exportées et vendues dans le marché indonésien. Donc, nous avons établi à l'ambassade une stratégie de travailler avec les autorités indonésiennes et les parties tunisiennes intéressées pour promouvoir d'autres produits ici sur le marché indonésien. Et Inch'Allah, on peut voir dans l'avenir d'autres produits sur le marché ici. Aussi, l'Indonésie exporte beaucoup de produits en Tunisie, notamment le rubber. Comment vous traduire rubber?
Caoutchouc.
Caoutchouc, exactement. Le caoutchouc, il y a l'huile de palme, les produits de l'artisanat, des produits manufacturiers. Donc, il y a beaucoup une variété de produits que la Tunisie exporte ici sur le marché indonésien et l'Indonésie exporte en Tunisie. Donc, nous souhaitons que ces produits, que le nombre de produits augmente, ça soit plus varié et les échanges augmente en volume. C'est ce que nous sommes en train de travailler là-dessus.
Ok. C'est le dernier président, c'est le Megawati qui va visiter, qui a été visité l'Indonésie. Est-ce qu'il y a le projet de le chef d'État ou de Tunisien qui va arriver en Indonésie pour serrer notre coopération?
Oui, actuellement, comme vous avez dit, le dernier président indonésien, Madame Megawati, était en Tunisie. Nous espérons que le président indonésien sera en Tunisie à l'avenir. Aussi, nous avons eu un échange de visites de haut niveau, notamment la ministre des Affaires étrangères, Madame Ritno Marsoudi, était en Tunisie en octobre 2017. Elle a conduit la délégation indonésienne à la commission mixte tunisien-indonésienne. Après ça, notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kemaïs Ginaoui, est venu en Tunisie. En décembre 2017. Il y a un échange intense de hauts responsables et, comme vous avez dit, ça mettra l'accent sur l'importance des relations et ça peut développer les relations entre les deux pays à l'avenir. Donc nous sommes en train de travailler pour multiplier ces visites et les mettre sur un niveau, les hisser pour un niveau important.
Ok, monsieur, c'est le dernier message. Mm-hmm. C'est la voix de Nessie, comme de nombreux auditeurs vivant en Indonésie, qui fêtent ainsi en Indonésie. Un d'entre eux a été invité à figurer parmi les gagnants de quiz international de l'année dernière. Mm-hmm. Avez-vous un message spécial pour les auditeurs de voix de l'Indonésie en Tunisie et pour la communauté tunisienne en Indonésie?
Oui, bien sûr. J'ai un message pour nos frères indonésiens qui sont en Tunisie. Actuellement, nous avons actuellement plus de 70 étudiants indonésiens en Tunisie, étudiés dans des universités tunisiennes, notamment à l'université Zitouna, que je considère les ambassadeurs d'Indonésie en Tunisie et les ambassadeurs de Tunisie en Indonésie. Actuellement, j'ai rencontré, depuis mon arrivée ici, j'ai rencontré beaucoup d'anciens étudiants en Tunisie qui connaissent très bien la culture tunisienne et qui sont maintenant soit des professeurs universitaires, soit des responsables dans des postes importants dans leur agence ou entreprise. Donc, à mes frères indonésiens, je dis Ramadan Mubarak, que Dieu accepte nos prières et notre jeûne. Et aussi, je considère que je lance un appel à nos frères indonésiens de maintenir le contact avec l'ambassade, avec la Tunisie, parce qu'ils sont importants pour nous, pour la Tunisie. C'est le, comme on dit, le bridge.
Un pont de
relations entre les deux peuples et les deux pays.
Ok, merci monsieur de votre occasion de ici de notre radio pour faire l'interview sur les relations indo-tunisiennes. Merci.
Je vous en prie, merci.
Okay.
Merci.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé Le chagrin musulman palestinien à Gaza au début du Ramadan. Le mois de Ramadan cette année, les musulmans palestiniens à Gaza sont en deuil. L'attaque à la bombe israélienne lancée depuis lundi soir a perturbé le culte et également a fait les morts, y compris causé des dommages et fait des blessés. L'atmosphère d'accueil du Ramadan dans la bande de Gaza était pleine de chagrin, de blessures et de larmes. À la suite d'attaques israéliennes, au moins 12 Palestiniens sont morts. Les Israéliens affirment que la plupart des victimes qui sont mortes n'ont pas à cause de leurs attaques. Chronologiquement, la tension qui a éclaté dans la guerre est apparue vendredi lorsque les Palestiniens à Gaza ont fait une manifestation contre le blocus par l'armée israélienne. Dans l'incident, un Palestinien a blessé deux soldats israéliens près du mur de la frontière. L'Israël a répondu par une attaque aérienne qui a tué deux membres des forces du Hamas. La guerre a éclaté, l'Israël a bombardé Gaza. Jusqu'à présent, la réaction à l'attaque israélienne a été déclarée la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi à la destruction du bâtiment qui abritait l'agence de presse turque Anadolu. Erdogan, à travers ses commentaires sur Twitter, a été rapporté par l'agence de presse AFP, a déclaré que la Turquie et l'agence de presse Anadolu continueraient à informer le monde des atrocités commises par l'Israël à Gaza et dans d'autres régions de la Palestine. La question est, quelle est l'attitude de la communauté internationale face à la tourmente et à la guerre et à l'attaque israélienne des territoires palestiniens à Gaza qui a débuté avec la guerre en 2014. Selon certains pays du monde, la crise à Gaza est un problème entre le groupe militant du Hamas et l'armée israélienne. Par conséquent, un cessez-le-feu et la garantie de l'absence d'attaque dépendront de l'attitude du Hamas et de l'armée israélienne. Mais en réalité, la question de la Palestine ne concerne pas uniquement le Hamas et l'armée israélienne. La reconnaissance de la Palestine souveraine est une solution, est une lutte qui doit être réalisée. C'est un engagement qui doit être réalisé et encouragé par des négociations. Il y a longtemps que la Palestine souhaite vivre pacifiquement sans crainte sous la menace des soldats israéliens qui a mené des attaques dans la bande de Gaza, comme il arrive juste avant et dans les premiers jours du Ramadan cette année. Une ironie et une catastrophe lorsque les musulmans du monde entier ont accueilli le Ramadan avec joie et spécialité. Les musulmans palestiniens à Gaza sont menacés les attaques israéliennes mortelles. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Salut à tous, bonsoir. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui qui se déroulera le 8 mai. Nous commençons par l'événement de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 7 mai 1945, le général Alfred Jodl, commandant des forces armées allemandes, a signé un document selon lequel l'Allemagne se rendait sans condition et a ordonné à tous les membres de l'armée allemande de cesser de tirer le 8 mai à 23h01 heure locale. Puis, Field Marshal Wilhelm Keitel et un certain nombre d'officiers allemands de haut rang se sont envolés pour Berlin et ont signé un document similaire avec l'Union soviétique. La nouvelle de la capitulation de l'Allemagne a été connue par les Européens occidentaux le 8 mai au matin, qui est accueillie par des millions de personnes dans les rues en célébrant la fin de leur souffrance. Alors que la nouvelle est arrivée à Moscou en Russie le 9 mai, la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale a donc été différente entre l'Europe occidentale et la Russie. Nous terminons notre histoire d'aujourd'hui avec la Journée mondiale de la Croix-Rouge. La Journée mondiale de la Croix-Rouge a été commémorée pour la première fois le 8 mai 1948. c'est pour apprécier le service d'un inventeur du mouvement mondial de la Croix-Rouge, Henri Dunant, qui est également né à la même date. La commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge a pour objectif d'inspirer, de faciliter et de promouvoir toutes les activités humanitaires menées par la communauté internationale de la Croix-Rouge et les membres de la communauté nationale qui la suivent. En outre, la commémoration est également une occasion d'apprécier le service de bénévoles et d'employés qui ont eu du mal à sauver la vie de nombreuses personnes. C'est retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. À demain.
Seperti ini berjalan, derita pasca senang-senang, aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Mungkin kerasnya derasnya arus pergaulan, aku dan keinginanku di atas kebutuhan.
Chanson de Kunto Aji dont le titre est Ahir Bulan qui signifie la fin du mois. Vous restez avec nous à Voice of Indonesia de l'onde courte de 3325 kHz et vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici Mon Indonésie.
Salut, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie et pour le titre, le ministère indonésien de l'industrie a organisé une formation sur l'industrie 4.0 avec l'Allemagne. Le ministère indonésien de l'industrie et le gouvernement allemand ont organisé la première formation de formateurs certifiés au niveau international en Indonésie. Ce programme faisait partie de l'amélioration des compétences en ressources humaines indonésiennes pour faire face à la révolution industrielle 4.0 par le biais de formations ou de stages en industrie. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Haris Munandar, dans une déclaration écrite publiée dimanche sur le site web du ministère. Haris Munandar a déclaré que le ministère de l'Industrie avait défini 10 programmes prioritaires dans la feuille de route de Making Indonesia 4.0. L'un d'eux était le développement compétent des ressources humaines adaptées aux besoins industriels. Certaines parties prenantes ont participé à la formation de formateurs, à savoir la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, l'Association des hommes d'affaires indonésiens, le Conseil de coordination de la certification des professionnels de Java orientale et la Chambre de commerce et d'industrie de Java centrale. Pendant ce temps, ceux de l'Allemagne étaient Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Industrie und Handelskammer ou la Chambre allemande de commerce et d'industrie, Trier, ainsi que la Chambre germano-indonésienne de l'industrie et du commerce, Econit. La formation participée par 16 participants de diverses entreprises s'est tenue au Bureau du développement des ressources humaines du ministère de l'Industrie à Jakarta du 22 avril au 3 mai. Selon Haris, après avoir obtenu son diplôme, le maître formateur sera chargé de former un nouveau formateur en milieu de travail qui développera des programmes de formation dans l'industrie et guidera les stagiaires dans l'industrie. Par conséquent, les stagiaires qui ont acquis des compétences pédagogiques ou de compréhension dans l'industrie peuvent être compétents dans leur secteur et rapidement intégrés au marché du travail. Il a ajouté que le maître formateur avait également le devoir de créer de nouveaux instructeurs dans l'industrie pour développer un écosystème d'enseignement professionnel. Il a espéré que les problèmes liés à la formation professionnelle en Indonésie pourraient alors être résolus. Auparavant, le ministère de l'Industrie avait mis en place un enseignement professionnel utilisant le concept de système double pour créer des ressources humaines compétences adaptées aux besoins de l'industrie. La méthode d'apprentissage adoptée de l'Allemagne, à savoir 70% est la pratique et le reste 30% de théorie. Ce concept est obligatoire dans toutes les unités d'enseignement professionnel relevant du ministère de l'Industrie et comprenant 9 écoles secondaires professionnelles, 10 écoles polytechniques et 2 écoles communautaires. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Adakah peluang No one loves you like I do. No one needs you like I do. No one cares for you like I do. So tell me, baby, why'd you got so far? No one talks to you like I do. No one looks at you like I do. No one kisses you like I do.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Yuka Tamada dont le titre est Tell Me Baby ou en français Raconte-moi mon amour. Et maintenant, je vais vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Serviteurs, nous vous rencontrons encore dans le programme quotidien Le Magazine Culturel. Ce soir, nous vous invitons à profiter du coucher de soleil sur la plage de Tanjung Setia, Lampung. Soyez toujours avec nous sur l'internet à l'adresse www.voi.co.id. Se détendre au bord de la mer et profiter du coucher de soleil devient toujours le bon choix lorsque vous êtes en vacances. À la plage de Tanjung Setia, à l'ouest de Lampung, le coucher de soleil est magnifique. Pour s'y rendre, il faut environ 8 heures de l'aéroport Raden Intan II, Bandar Lampung. Tanjung Setia est situé le long de la plage de l'ouest, près du parc national du Sud Bukit Barisan. Cette plage est située à environ 273 km ou à environ 6 de 8 heures de trajet de la ville de Bandar Lampung. Les vagues sur la plage de Tanjung Setia sont considérées comme l'une des meilleures vagues par les surfeurs du monde entier. Elle est similaire avec le célèbre spot de surf dans le monde, à savoir à Hawaï. La plage de Tanjung Setia est exactement située sur la grande ligne en continu de l'océan Indien. Malheureusement, la plage n'est pas encore très populaire pour les compétitions de surf comme à Bali ou à Lombok. Seuls quelques surfeurs connaissant la plage sont très intéressants pour les surfeurs. Pendant la saison de surf de juin à août, les vagues de la plage de Tanjung Setia peuvent atteindre une hauteur de 6 à 7 mètres et s'étirer sur 200 mètres, devenant ainsi le principal lieu de surf. Pour rendre la plage populaire, certaines parties liées s'efforcent d'organiser des compétitions afin que leur paysage magnifique puisse être connu de nombreuses personnes. Les surfeurs de pays étrangers connaîtront la beauté de la plage en organisant une compétition internationale de surf. Parce que la plage est devenue un lieu de compétition pour le surf international au début de mai 2019. La compétition peut attirer des surfeurs de 23 pays. Tous les participants ont déclaré que les vagues sur la plage de Tanjung Setia sont parfaitement adaptées aux surfeurs professionnels. La plage de Tanjung Setia a un sable blanc et doux qui s'étend le long de la plage. Le bord de mer de Tanjung Setia est également décoré de palmiers offrant de beaux paysages. En outre, l'offshore Tanjung Setia attend les amateurs de pêche sportive attrapent des poissons en abondance ici. Il existe des poissons géants bleu marlin qui sont connus sous le nom d'Iwatuhuk par la population locale. Blue marlin peut peser environ 50 à 70 kg avec une longueur allant jusqu'à 170 cm. Jacques Talk, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous venez d'écouter la chanson de Anang Hermansyah et Syahrini intitulée Suasana di Kota Santri.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est nomor rumah. Je répète, nomor rumah. En français, numéro de maison. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa Indonesia entre la chauffeur et un homme. La chauffeur de taxi a du mal à trouver la maison numéro 5, car ce n'est pas toutes les maisons qui ont le numéro de maison. La chauffeur de taxi a demandé à la personne qui était là.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. C'est nomor rumah. Nomor rumah, en français, numéro de maison. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya. signifie « Excusez-moi, je voudrais demander quelque chose. » Yang mana? Yang mana? Signifie « Laquelle? » Yang mana rumah nomor 5? Yang mana rumah nomor 5? Signifie « Quelle est la maison numéro 5? » Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Signifie « Je ne sais pas. » Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. Signifie « Je n'habite pas ici. » Pour demander le choix, vous pouvez utiliser le mot question yang mana, qui signifie laquelle. Dans le dialogue, la chauffeur demande yang mana rumah nomor 5, yang mana rumah nomor 5, signifie quelle est la maison numéro 5. La phrase numéro 5 ou nomor 5 peut être remplacé par le nom de propriétaire de la maison, par exemple Pak Joko. Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? En français, quelle est la maison de Monsieur Joko? De plus, dans le dialogue, la personne demandée par la chauffeur a répondu Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. En français, je ne sais pas. Et saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. En français, je n'habite pas ici. La phrase saya bukan orang sini signifie qu'il n'habite pas à cette région. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Chers amis, voilà l'émission apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Et vous venez d'écouter la chanson de Bara Suara intitulée Sendu Melagu. En plus de l'onde courte de 3,3-5 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voyus.id. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Pour vous cette fois-ci, je vais vous donner la chanson religieuse du groupe Niji dont le titre est Vibrasi. Sorti le 12 avril 2019, c'est la première chanson de Niji avec son nouveau chanteur, s'appelle Ubay. La chanson Vibrasi, ou en français Vibration, dont le thème est religieux, est le résultat de l'expérience spirituelle d'Ariel, le guitariste de Niji, lorsque Niji doit soudainement se reposer. Le message à transmettre dans la chanson intitulée Vibration et que la difficulté est temporaire. Pour pouvoir sortir de la situation difficile, il faut être sincère et reconnaissant, il faut agir et il faut rendre au Tout-Puissant. Bon, chers auditeurs, voici Niji avec la chanson intitulée Vibrasi ou en français Vibration. Bonne écoute!
Tak lagi merasakan sepi karena akhirnya aku mengerti
cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini. Dunia penuh ilusi menekanku tanpa berhenti, sehingga aku terus mencari apakah arti dari hidup ini. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai, ikutilah hingga mengalir. Tersenyumlah jangan khawatir, susahmu hanya sementara. Berserahlah sepenuh hati, sepenuh hati. Cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini, sehingga aku terus mencari arti hidup. Ketika hati bervibrasi, hadir perasaan yang damai, ikutilah hingga mengalir. Tersenyumlah jangan, berserahlah sepenuh hati, sepenuh hati.
Tersenyumlah, mari kita berserah. Tersenyumlah, mari kita berserah. Tersenyumlah, mari kita berserah. Tersenyumlah, mari kita berserah.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'onde courte de 3,325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir!